La nature, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy.
Parce qu'on veut transformer la vie pour nous.
Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Il installe des dessins dans les rues des villes du monde. Vous en avez vu peut-être ces personnages qui surgissent sur des murs défraîchis et demeurent quelques semaines, parfois plus, parfois moins, jusqu'à ce qu'ils soient arrachés ou décollés. Ce sont des feuilles fragiles, des collages nocturnes et éphémères offerts au temps et aux passants. Rimbaud à Charleville-Mézières ou une famille d'Afrique du Sud derrière les barbelés de l'apartheid à Nice, ou une femme morte dans les labyrinthes des ruelles de Naples, ou les personnages d'une querelle dans la zone portuaire de Brest. Et d'autres figures, un poète au milieu des ruines en Palestine ou à Santiago du Chili, un résistant et martyr dans la Casbah à Alger. Et chaque fois, les personnages qu'il fait apparaître exactement là, dans un endroit et un contexte éclairant, plein de sens. Même si vous ne les reconnaissez pas, ils vous rappellent quelque chose de familier. Est-ce leur style ? Qui évoque peut-être une attitude, ou une photo célèbre, ou la position d'une vierge dans un tableau fameux, ou un visage souvent croisé dans les livres peut-être. Je préférerais dire qu'ils portent en eux un poids de mémoire qui ressurgit dans cette apparition calculée. Calculée, voulue, installée précisément par Ernest Pignon-Ernest, oui, Ernest Pignon-Ernest, c'est un artiste connu, populaire même. On voit son fameux Rimbaud sur des centaines de biographies. Ses images, ses dessins sont reproduits souvent. Un artiste populaire donc. Pourtant, j'ai l'impression qu'on ne saisit pas toute la qualité intellectuelle, spirituelle, mémorielle, combative de ses interventions. Comme si ça nous arrangeait d'en faire un dessinateur. Ernest Pignon-Ernest dessine, bien sûr. C'est un virtuose, ce n'est pas tellement important. Mais son travail a une qualité autre, plus large, qu'on a, me semble-t-il, négligé. Il est vrai qu'aujourd'hui, des artistes qui interviennent dans l'espace urbain, J.R., Banksy, reconnaissent cette antériorité. Mais je pense aussi à tous ceux qui installent, exaltent les significations d'un lieu, soulignent en les cadrant les signes superposés de la ville, inscrivent les cadeaux du hasard dans leurs œuvres. Bref, les artistes contemporains que nous aimons, et il en fait partie. Aujourd'hui, à l'occasion d'une exposition à l'atelier Grognard à Rueil-Malmaison, j'ai le plaisir d'accueillir l'autodidacte, le lecteur insatiable, le fou de poésie, l'amoureux des artistes d'autrefois, l'artiste, Ernest Pignon-Ernest. Ernest, bonjour.
Bonjour Jean, bonjour.
Vous allez bien ?
Oui, tout à fait.
Vous savez, je pense parfois à une œuvre d'un artiste, je crois pas que vous l'ayez connu, c'est un artiste disparu, très jeune, qui s'appelait Richard Bacquier, qui avait fait une œuvre dans les quartiers nord de Marseille, qui s'appelait « L'aventure est au coin de la rue ». Et je me demande parfois, connaissant, ayant visité par moments votre atelier à Ivry-sur-Seine, si le travail, votre travail, se déroule dans l'atelier ou dans l'aventure, au moment de l'aventure, au coin de la rue.
Ben écoutez, il y a la conjugaison des deux. Hein. Je veux dire que mes images, je ne les colle jamais au hasard. Donc j'ai une appréhension de chaque lieu, à la fois une appréhension de peintre et de sculpteur, c'est-à-dire que j'en fais une appréhension très très charnelle, quoi, hein, très physique.
Pas seulement physique, Ernest, c'est aussi, me semblait-il, le c'est pas seulement l'apparition d'un personnage quelque part, c'est aussi la réflexion sur ce qu'est ce quelque part, non ?
En effet, c'est ça. C'est-à-dire que j'allais vous dire qu'au fond, j'ai commencé en parlant en tant que peintre et sculpteur, quoi. Mais en même temps, j'essaie d'appréhender des lieux dans lesquels j'interviens, ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire la mémoire enfouie, quoi, l'histoire et la force symbolique, si vous voulez. Et c'est mes images naissent de cette double appréhension, à la fois de ce qui se voit, c'est-à-dire que, bien entendu, quand vous dites au coin de la rue, mais j'y suis allé à la fois, pardon, j'ai un problème parce que tout se répète dans mes oreilles, à la fois à toutes les heures de la journée, je sais comment la lumière va venir dessus, je sais la texture du mur, je sais sa couleur, je sais comment on va le découvrir ce mur, hein, la façon dont on va l'appréhender, et puis simultanément, je sais son histoire, sa force symbolique, et mes images naissent de cette appréhension et de cette étude complexe des lieux, voilà.
Et alors quand vous êtes,
et en quelque sorte, quand je viens inscrire mes images dans ces lieux, c'est comme si elles étaient nées du lieu lui-même, vous voyez. Et leur rôle, c'est en quelque sorte de les révéler, d'exacerber leur potentiel, quoi.
Alors quand je suis allé dans votre atelier, et peut-être que c'est une bonne façon de commencer la conversation, il y avait un personnage magnifique, plusieurs études qui étaient faites avec des papiers qui s'enroulaient les uns sur les autres et qui étaient accrochés au mur, et c'était évidemment Pasolini. Et Pasolini, vous l'avez installé dans des endroits, à Rome, à Matera, qui ont du sens par rapport à sa vie, et je suis curieux de savoir comment vous avez imaginé cette figure. Ça serait bien que vous la décriviez, et aussi pourquoi là.
C'est-à-dire que il y a quelques années, à la lecture, bon, je lis régulièrement les poètes, je lis régulièrement les écrits corsaires de Pasolini, je revois ses films. Il y a quelques années, donc, je me suis rendu compte que il y avait 40 ans qu'il avait été assassiné. Et je me suis dit, au fond, il nous avait prévenu de toutes ces mutations anthropologiques, de cette espèce de déshumanisation qu'annonçait la société des années 60, cette forme de capitalisme basé sur la consommation, vous voyez. Et je l'ai perçu un peu comme une espèce de sibylle, quoi. Et j'ai l'image que vous avez vue, visait à essayer d'exprimer cette idée.
Décrivez-la nous, Ernest, parce que elle est très très saisissante.
C'est Pasolini lui-même qui arrivait avec son corps dans ses bras. Voilà, un peu comme s'il nous disait qu'est-ce que vous avez fait de ma mort ? Qu'est-ce que vous avez fait de ma mort ?
Ce grand portrait extraordinaire, c'est une figure, faut imaginer une figure en pied qui apparaît dans la ville. Je me souviens d'une installation où cette figure en pied était à côté d'une église et contre un tag gigantesque. Il y avait une sorte de tension entre les deux. Et il tient dans ses bras lui-même comme s'il était à la fois s'il était sa propre mère d'une certaine façon, qui tient le fils dans ses bras, et le fils c'est lui-même et la mère c'est lui aussi. C'est cela, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Oui. Ben, c'est-à-dire que j'ai essayé, cette volonté, cette quête à un côté Pasolini, hein, j'ai essayé à la fois de le rendre très présent, très contemporain. Je veux dire que pour les gens qui connaissent les photos de la police, quand on a retrouvé son corps, j'ai étudié tout ça, ses jeans, ses bottes, son blouson, son t-shirt. Et donc une image très, très aiguë, très contemporaine. Mais en même temps, je l'ai mis dans une position d'une Pietà. Et il y a un peu chez lui, dans toute son œuvre, à la fois cette espèce de volonté d'une appréhension très sensuelle, très charnelle de l'espace et des gens, et c'est cette appréhension charnelle qui en affirme la dimension sacrée en quelque sorte. Vous savez, il y a chez lui, même quand il traitait des thèmes très pragmatiques, très contemporains, le logement, l'emploi, dans Mamarome hein, ou dans Acatone, il faisait du destin d'un homme, d'un garçon le plus humble, une espèce de quête épique et mythique presque, vous voyez. Je veux dire que il y avait chez lui cette espèce d'engagement dans le présent le plus quotidien, et en le nourrissant d'un ancrage dans les mythes et dans les grandes voies du passé. Vous voyez,
c'est pour ça que vous l'avez installé entre l'église, parce qu'il y a un côté très très religieux dans son travail, très important de ce point de vue-là. Je pense évidemment à la Passion selon saint Matthieu, et en même temps très engagé. Je vous propose d'écouter, Ernest, un poème très beau qui a un lien fort avec ce travail. Ça, c'est un poème de Pasolini qui s'appelle « Le jour de ma mort ».
Le jour de ma mort. Dans une ville, Trieste ou Udine, le long d'une allée de tilleuls, quand les feuilles du printemps changent leur couleur, je tomberai mort, sous le soleil qui brûle, blond et haut, et je fermerai les yeux, laissant le ciel à sa splendeur. Sous un tiède tilleul verdoyant, je tomberai dans la nuit de ma mort qui disperse les tilleuls et le soleil. De beaux enfants courront dans cette lumière que je viens de perdre, s'envolant des écoles avec leurs fronts bouclés. Moi, je serai encore jeune, avec une chemise claire et mes doux cheveux qui pleuvent sur la mer poussière. Je serai encore chaud, et un enfant courant sur l'asphalte tiède de l'allée viendra poser sa main sur mon ventre de cristal.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez L'Art et la Matière. Nous parlons avec Ernest Pignon. Ernest, à l'instant, de Pasolini et de beaucoup d'autres de ses interventions. Magnifique poème, Ernest, n'est-ce pas? Ernest, vous m'entendez? Magnifique poème. Et donc, ce qui m'intéresserait, c'est évidemment de savoir quelles ont été les réactions des gens qui, là-bas, à Matera ou à Rome, ont vu apparaître ce personnage qui leur était familier. Alors, chez vous, Ernest Pignon, Ernest, il y a énormément d'œuvres qui sont ainsi installées dans des endroits très périlleux, très difficiles. Évidemment, ce qui a été peut-être le plus important pour vous, ça a été Naples. Et pour cela, j'aimerais que nous puissions entendre un poème qu'a écrit un de vos amis, un grand ami, je crois, c'est Voltaire. Et donc, écoutons ce qu'il dit de vous.
Le matin sent la lessive et l'ail. Il y a de la cendre avant le feu, des langueurs marines, des pestilences et du sang qui ne pardonne pas. Il y a cette hantise partagée d'une apocalypse moite où la Camarde tue avec sa faux rouillée. Les ardeurs ici ont des reflets d'émeute, les rires un soupçon d'agonie, les fleurs un parfum de famine. Ernest Pignon Ernest a choisi la cité en chaos. La trame la plus serrée de splendeur et d'outrage, de hautes légendes, de bas instincts, de beaux chromos. Il a livré au soleil comme une âme secrète, à la pluie et au vent de vrais portraits enfouis. Il a restitué l'éternel au précaire, le religieux au profane, l'inestimable à l'indigent. Naples s'est trouvé au miroir de ses traces détournées, de ses croyances sans âge, de ses allégories. À la rue, Caravage, Ribera, Stanzione, Giordano, Mazzoni. À la rue, les chefs-d'œuvre, et bienvenue au tout-venant. La Madone au serpent, près d'une porte bleue. Marie-Madeleine devant une Fiat 600. Christ ressuscité d'entre les fruits et légumes. Salomé assombrie. Et le linceul déchiré d'une mise au tombeau qui ressemble à jamais au parachute d'un ange.
Ernest Pignon Ernest, nous venons d'entendre de beaux poèmes de Voltaire, évidemment, André Voltaire qui a fait ce poème sur votre travail, la façon dont vous êtes rentré avec une sorte d'effusion fascinée dans Naples, que vous aviez préparé longuement, voyage que vous avez fait souvent et qui a été central dans tout votre pensée, votre développement personnel, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Je veux dire, André Voltaire, il y a peu de gens qui connaissent mon œuvre comme lui, quoi. Nous avons une grande proximité. Nous avons réalisé une vingtaine de livres ensemble, hein. Vraiment. Oui, mais vous avez raison. Naples m'a beaucoup impressionné. Je suis allé à tâtons, je dirais. Je sais maintenant que j'ai lu une centaine de livres pour appréhender cette ville, quoi. Vous voyez, de Virgile à Eri de Luca, cette ville a il y a 2000 ans au présent, quoi. Je veux dire, c'est un peu une espèce d'interrogation sur ce qui fonde ma culture.
Ouais. Oui, c'est les Grecs, les Troyens arrivant à Naples, et puis les Romains, et puis les Espagnols. Enfin, c'est toute une superposition extraordinaire.
J'ai travaillé beaucoup sur ces glissements, vous voyez, de mythologie grecque, mythologie romaine, mythologie chrétienne, au niveau des mythes, mais en même temps, presque, je dirais, d'un point de vue plastique. Si vous voulez, on peut retrouver des représentations d'Adonis blessé dans les bras d'Aphrodite qui annonce la piété chrétienne. Et j'ai beaucoup travaillé dans cet esprit. Vous voyez, à Naples, il y a ces sédimentations tout le temps, quoi. Vous voyez, je veux dire que à l'entrée de la ville, l'église de Piedigrotta, où vont prier les femmes qui veulent des enfants, a été construite sur un temple à Priap. Vous voyez, je veux dire que ce rôle de la fécondité est resté le même à 2000 ans d'intervalle pour des cultes différents, quoi, qui se sont superposés.
J'ai cru que j'ai su même que vous interveniez plus particulièrement pendant les nuits qui précédaient les jours saints, le vendredi saint. Pourquoi?
C'est-à-dire que, vous savez, mes œuvres, ce sont pas mes dessins eux-mêmes, quoi. C'est ce qu'ils provoquent dans les lieux. Ce sont les lieux travaillés par la présence de mes images. Au fond, mes images font du lieu un espace plastique, travaillent le lieu d'un point de vue plastique, mais travaillent le lieu au niveau de sa symbolique, de son sens, d'un point de vue presque sémantique. Et donc, j'ai un des thèmes que j'ai abordé et qu'on ne peut pas éviter quand on travaille à Naples, c'est cette espèce de proximité, de présence en permanente de l'idée de la mort. Vous voyez, je veux dire, Naples est coincée entre ces deux volcans, la Solfatara, cette terre qui brûle en permanence près du lac d'Averne, et puis de l'autre côté, bien entendu, le Vésuve. Et il y a cette présence de la mort qui est là permanente et qui a nourri presque toutes les œuvres qui sont nées à Naples, bien entendu. Et bien entendu, on pense à Caravage, mais aussi à Gesualdo en même temps, quoi. Vous voyez,
la musique vous a influencé
donc,
aussi. La musique baroque vous a influencé.
Les images que j'ai travaillées sur le thème de la mort, en interrogeant par exemple toutes les Pietà les plus vénérées de Naples, de Stanzione ou de Ribera, effectivement, j'ai fait en sorte qu'elles se découvrent dans le contexte de Pâques, de la Passion et de la Résurrection. C'est-à-dire que c'est les découvrir dans ce contexte très particulier à Naples, où les processions sont très très importantes et qu'elles se superposent sur des parcours liés à la mort déjà du temps des Romains ou des Grecs. Vous voyez, je veux dire, rencontrer ces images, je veux dire que vous avez bien précisé que je les mets en relation avec une date, mais je les mets en relation avec le sol et le sous-sol de la ville aussi. Vous voyez, je veux dire que ces images de la mort, qui étaient des références à la Grande Peste de 1656, je ne les ai collées que dans des rues dont le sol était fait avec la lave du Vésuve, pour avoir une espèce de proposition plastique qui est presque de l'ordre de ce que fait Anselmo, vous voyez, de l'arte povera. C'est-à-dire que Anselmo, c'est un grand artiste italien contemporain qui mettait un bloc de marbre avec une laitue dessus. Cette confrontation avec un matériau complètement intemporel, immémorial, et puis la fragilité du légume, quoi, voilà. Et moi, je mets mes images, comme vous avez dit au début de notre émission, elles sont sur un papier très, très fragile. En les découvrant, on sent qu'elles vont disparaître, qu'elles sont d'une grande fragilité, que leur mort est annoncée, et elles viennent s'appuyer sur un sol fait par d'énormes dalles noires qui sont taillées dans le tuf, dans la lave du Vésuve, c'est-à-dire dans cette espèce de menace permanente qu'il y a sur la ville.
Ernest, vous voulez dire que le dallage fait partie de votre œuvre, et il y a quelques situations, je pense en particulier à une très très belle image de la Vierge du Caravage que vous avez tirée de la Vierge du Caravage, d'ailleurs avec des distorsions que vous nous expliquerez, et tout d'un coup cette Vierge est installée après ou juste à côté de deux dames vivantes. Et donc, non seulement la pierre fait partie de votre travail, l'environnement, mais même les gens, vous les avez inclus dans l'œuvre.
Tout à fait. Dans mon projet napolitain, il y a plusieurs parcours, mais notamment, comme je vous le disais tout à l'heure, un parcours sur les représentations de la mort qu'a sécrété cette ville depuis 2000 ans, depuis Virgile et l'Énéide, et des images qui font allusion à cette propension de Naples à vénérer les femmes. Et les deux parcours se sont croisés dans ma proposition par cette citation de la mort de la Vierge. Nous avons la chance de la voir au Louvre. C'est une des plus belles œuvres du Louvre. Voilà. Et en effet, mais lorsque j'ai envisagé de la placer là, dans ce parc à Napoli, qui veut dire la grande fente de Naples, j'ai vu que cette image de femme morte était insupportable dans une rue de Naples, et qu'il fallait que l'équivalent d'une veilleuse, comme la Marie-Madeleine, qui est dans le tableau de Caravage. Et donc, j'avais repéré ces deux femmes qui étaient là en permanence, qui vendent des serpillières ou des cigarettes de contrebande, en fait, qui vendaient, voilà. Et je les ai collées là parce qu'elles jouaient ce rôle de passage entre l'espace de mon image et l'espace de la rue, vous voyez.
Et comment, Ernest, comment est-ce que les habitants de Naples ont accepté, reçu votre travail? Parce que j'imagine, c'est pas si facile de coller à Naples. On est observé, la Camorra est active, les uns et les autres s'étonnent de voir le lendemain quelque chose qui n'était pas là la veille. Est-ce que ça a été apprécié? Oui. Est-ce que vous avez été inquiété? Oui, est-ce que la police était enthousiaste?
Attendez, il y a plusieurs. Aucune image, à part une, mais c'est trop compliqué d'expliquer, aucune image a été déchirée. Parce que, vous savez, j'ai beaucoup travaillé, j'ai collé plusieurs centaines d'images dans Naples. Je peux vous dire chacune pourquoi elle est à tel endroit. Si le mur était une référence à la Grande Peste, à un tremblement de terre, à San Gennaro ou à San Gaetano, ou à Sainte-Agathe, vous voyez, je veux dire que, et du coup, aucune image n'a jamais été déchirée et enlevée. Elles se sont inscrites juste. Et d'ailleurs, il y a eu un film qui a été fait récemment, 30 ans après mes collages, où les gens disent, mais la personne qui a fait ça connaissait bien notre vie, connaissait bien notre histoire. Voilà.
Il y a même dans ce film, à un moment donné, où un des personnages dit que vos dessins ont pénétré à l'intérieur des murs, comme s'ils les avaient imbibés, en fait.
Absolument. Un personnage dit que les murs, que mes dessins avaient sointé des murs, parce qu'ils ont une propension à avoir des miracles partout, quand même, et qu'en fait, les murs les avaient récupérés, les avaient repris. Je dois dire, je ne sais pas si je dois me vanter de ça, une des dernières nuits où j'ai collé, il y a un personnage qui m'a un peu intrigué. J'ai vu qu'il me surveillait dans les rues. Puis il s'approchait de moi au matin, à la levée du jour, très élégant. Et il est venu vers moi, il s'adressait à moi en français et en me tutoyant, en me disant « c'est toi l'artiste ». Il me dit « tu connais tout à Naples ». Je dis, j'ai beaucoup travaillé, j'aime beaucoup. Il dit, ce que tu fais, c'est un immense hommage à notre ville, à Naples. Alors je lui dis, c'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison, je n'avais pas pensé comme ça, mais vous avez raison, j'admire beaucoup votre histoire, votre culture, vos attitudes. Là, et c'est un hommage, vous avez raison. Et ce type me dit, tu n'as pas eu de problème? Alors j'ai dit, non, jamais. L'image de Naples, c'était que les rues étaient un peu dangereuses. Des gens étaient un peu surpris que j'ai collé dans certains quartiers liés à la Camorra. Et ce type me dit, tu n'as pas eu de problème? J'ai dit non. Il dit, normalement, tu ne dois pas avoir de problème. Et si t'arrive quelque chose, tu m'appelles, on arrangera ça, quoi. Voilà. Donc, j'avais une espèce de bénédiction de Lacamor. probablement parce qu'ils sont très fiers de leur ville. Hein. Les Napolitains pensent quand même que c'est le centre du monde, hein, je veux dire vraiment.
Sincèrement, ils n'ont pas tort. J'aimerais savoir, Ernest, puisque nous parlons de cette réaction des personnes à ton travail, j'aimerais savoir, là c'est un travail qui emporte avec lui toute la culture de Naples, de Virgile à Caravage, à Ribera, mais quand c'est un travail... plus marqué politiquement. Je pense, par exemple, lorsque tu installes dans la Casbah à Alger l'image de Maurice Audin, comment ça se passe avec le public ? Maurice Audin, pour que vous vous en souveniez, auditeurs, chers auditeurs, je vais vous faire écouter un extrait d'un texte qui est publié très récemment. C'est un texte de 2018 par l'association Josette et Maurice Audin et dans lequel on rappelle l'affaire de ce résistant. Écoutons-le.
Ces dernières semaines, l'affaire Maurice Audin est revenue sur le devant de la scène. Ses prises de position ont été largement relayées par les médias, permettant même de faire surgir des témoignages comme celui d'un appelé publié dans l'Humanité. Un espoir s'est levé, mais il ne doit pas être déçu. C'est une certitude établie de longue date. Maurice Audin a été enlevé, détenu, torturé et exécuté, assassiné par des soldats français qui ont fait disparaître son corps. Il est une des victimes de la torture et du système répressif mis en place. À travers l'armée française, c'est bien la responsabilité de l'État qui est engagée. Détermination. Car nous continuerons à agir sans relâche pour cette reconnaissance. Réunion publique, 22 mai 2018, mobilisation des réseaux sociaux, attribution du prix de mathématiques Maurice Audin, érection d'une stèle commémorative au cimetière du Père-Lachaise. Nous ne lâcherons pas.
C'était au moment des grandes disputes, évidemment, de l'Algérie française, des grandes batailles, des grands conflits. Depuis Badinter, François Hollande, Emmanuel Macron ont reconnu donc l'assassinat de Maurice Audin et évidemment le préfet Papon, le général Ossarès, leur forfait a été dénoncé. Donc vous avez, Ernest Pignon-Ernest, installé dans la Casbah et probablement près de l'endroit où il a été torturé, l'image de Maurice Audin. Comment est-ce que ça a réagi?
C'est-à-dire que maintenant, disons que le combat de Josette Audin a été couronné quand même, puisqu'avant sa mort, l'État a reconnu qu'il s'agissait d'un crime d'État. Hein, vous savez,
en effet.
Ça a été le combat de toute sa vie, elle et les enfants de Maurice Audin. Moi, en fait, deux mots, j'avais été invité à faire un travail par rapport à l'Algérie et par une espèce de délicatesse, je ne me permettais pas d'intervenir sur les problèmes propre à l'Algérie elle-même, d'autant que j'ai été militaire là-bas. Et donc, j'avais saisi le destin de Maurice Audin me semblait emblématique, vous voyez, de tout le non-dit, de tout ce passif que nous avions avec, et que nous avons en fait toujours avec l'Algérie. J'ai fait un parcours, j'ai rencontré Josette Audin et je ne l'ai fait que parce qu'elle était d'accord. C'est elle-même qui m'a donné des photos de Maurice Audin. Vous savez, quand il a été enlevé, il avait que 23 ans, il avait déjà 3 enfants, c'était un mathématicien très brillant, c'était un type qui avait confiance dans l'avenir. Et dommage qu'on ne les ait pas écoutés, d'ailleurs, ça aurait fait l'économie de millions de morts. Et donc, j'ai travaillé sur sa présence à Alger. J'ai collé ses images près des endroits où il a étudié, là où il a enseigné, près du tunnel des facultés. Puis j'ai retrouvé, grâce à des discussions avec Henri Alec qui m'a fait le plaisir d'ailleurs d'écrire sur mon collage dans un de mes bouquins.
Et qui a été torturé avec Maurice Audin.
Ils ont été torturés ensemble, en quelque sorte. C'est le dernier qu'il a vu vivant. Il a croisé Maurice Audin pendant qu'on les torturait dans cet immeuble d'Elbiar. Et Maurice lui a dit, c'est dur Henri. Voilà, il m'a raconté ça. Il le raconte d'ailleurs dans son livre. Vous savez, son livre, La question a été déterminant pour toute une génération à propos de la guerre d'Algérie. Donc, j'ai collé dans Alger. Vous me demandiez des anecdotes. J'ai collé à l'endroit où il a été arrêté, là, où sa famille vivait. Ça s'appelait le Champ de Mars. Là, le deuxième jour, le dessin était déchiré. je suis allé le recoller et ça a entraîné une espèce de grande confrontation par les habitants de l'immeuble. Certains étaient vraiment très tristes. Il y en a un qui m'a dit vraiment je suis malade. J'ai compris que c'était Maurice Audin et j'ai vu que les gamins ne savaient pas qui il était, qu'ils avaient déchiré son image. Et il leur a posé la question. Il leur a dit pourquoi vous l'avez déchiré? Ils ont dit il était juif et communiste. Enfin, Maurice Audin était communiste, mais il n'était pas juif. C'était le cas d'Henri Alleg. Par contre, j'ai eu un moment. Vous savez, quand on fait ces collages, on a quelquefois des aventures très très fortes.
Ah oui, j'imagine. Près
du tunnel des facultés, un ami algérien m'avait dit, un journaliste algérien m'avait déconseillé de coller la nuit. Il m'a dit si la police t'arrête, aussi bien il te casse la gueule. Donc fais-le en plein jour. Donc j'ai collé au tunnel des facultés. Là, deux gendarmes m'ont arrêté. Ils ont voulu me confisquer mon appareil de photo et puis ma colle et mes dessins. Et là, j'ai fait un peu... Vous voyez, j'ai déjà un certain âge, comme ça. C'était deux jeunes gendarmes, peut-être à peine une vingtaine d'années, un peu plus. Et avec beaucoup de culot, je leur ai dit « Non, non, mais je vous parle pas, vous appelez votre chef. » Comme ça, avec un peu d'autorité. Donc, il y en a un qui est parti, qui est revenu avec une espèce de caporal-chef. J'ai dit la même chose. J'ai dit « Non, 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 mais... vous appelez vos chefs. » Et donc, c'est assez impressionnant parce que dans Alger, il y a beaucoup de gens au chômage. Et donc, au bout de quelques minutes, il y avait plus de 50-100 personnes autour de nous, comme ça. Et puis, il est arrivé une jeep avec un capitaine. Je reconnais les grades, hein, comme je fais mon service militaire. Il est arrivé un capitaine qui est arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, voyez, c'est Maurice Audin. Et il descend de la jeep. Il me dit... Je vous remercie de saluer ce martyr de notre révolution. Continuez, je vais expliquer à mes hommes qui il a été. Voilà, voilà. Donc c'était un moment très fort, très très émouvant.
Ah, c'est même de l'entendre, c'est émouvant. Mais ça a dû être, comment dirais-je, il fallait oser. Ça aurait pu très mal se passer. Et comment ça se passe là, c'était un combat, c'était une empathie de votre part, une solidarité, évidemment, avec cette lutte. Mais comment ça se passe quand vous avez travaillé, par exemple, sur la figure de Mahmoud Darwish en Palestine, en Galilée? C'était difficile
vous savez,
aussi
je peux, oui, je peux vous dire deux mots comment c'est venu avant. Parce que vous savez, ces images, c'est... quelquefois les gens disent ce sont des affiches, ça m'agace beaucoup. Ce sont pas des affiches, ce sont des images que j'ai élaborées avec beaucoup d'attention, vous voyez. Et
vous alliez dire que c'est avec beaucoup d'attention et ce sont des images que vous installez évidemment ensuite et ce sont des dessins originaux, parfois des sérigraphies et qui sont laissés là. Alors on va écouter. On va écouter un poème de Mahmoud Darwish qui s'appelle « Télégramme de prison ». C'est dans des poèmes palestiniens. On vous écoute.
Télégramme de prison. Du bout de la prison, une poignée de mes poèmes s'est envolée pour affermir vos mains comme un souffle sur un feu. Je suis là, et derrière le mur, mes arbres réduisent la montagne vantarde. Mes arbres. Depuis que je suis venu ici payer le douaire de mes écritures, rien n'a gravi les barreaux aux murailles que les étoiles. Je dirai à celui qui ajuste les menottes à mes poignets, voici les bracelets de mon poème et de ma persistance. Ma chaussure à la pointure de votre gloriole, et la chaîne de ses mains est aussi longue que votre vie est tirée dans la honte. Je dirai aux gens, aux amis, nous sommes là, processionnant, captifs de votre amour. En ce jour, ma passion pour la patrie a grandi d'une année. Embrassez-moi donc, comme le vent étreint le feu.
Ernest Pignon-Ernest, nous sommes avec vous et nous venons d'entendre un poème de captivité du grand artiste, du grand poète Mahmoud Darwish, que vous aimez très particulièrement.
Oui, je dis même plus d'ailleurs poète palestinien, c'est un poète universel, bien sûr, hein, bien sûr. J'ai eu la grande émotion un jour, il y a quelques années, quand il est venu intervenir à l'Odéon. Au petit matin, il y a Olivier Pic qui m'appelle, qui était directeur de l'Odéon à ce moment-là. Il me dit, Mahmoud Darwish est chez moi, il décolle pas de tes livres, il voudrait te rencontrer. Alors j'ai dit, tu peux lui dire que je suis allé l'écouter tous les soirs. Et il me dit, il peut te voir. J'ai dit, mais quand vous voulez. Et donc, Olivier Py, Mahmoud Darwish, Elias Sambar, son traducteur, et Claude Guerre, qui dirigeait la Maison de la Poésie, sont arrivés chez moi tout de suite. Voilà, ça a été une rencontre vraiment que je ne suis pas prêt d'oublier. Et Mahmoud Darwish m'a proposé d'aller travailler à Ramallah avec lui. Voilà, donc ça s'est passé comme ça. Et puis, donc, on a préparé tout ça, mon voyage à Ramallah, et comme vous le savez, Mahmoud Darwish est mort au cours d'une opération. Mais quand il était dans mon atelier, il avait découvert que j'étais l'auteur de l'image de Rimbaud, donc que vous avez cité tout à l'heure, et il me dit, mais tu sais, je l'ai à Ramallah, j'ai cette image-là. Et donc, moi, j'étais allé à Ramallah avec l'espoir de travailler avec lui, que des images naissent de nos échanges, de nos relations. Et finalement, j'ai fait un parcours Mahmoud Darwish comme j'avais fait le parcours Rimbaud.
Alors, vous parlez de Rimbaud, évidemment, ça nous donne l'occasion peut-être d'en dire un mot, parce que c'est une œuvre qui vous a poursuivi au point d'être presque gênante. Il y a des centaines de livres qui portent votre image, donc votre interprétation de la photographie de Karja. Comment est-ce que vous avez choisi cette image? Pourquoi à ce moment-là Rimbaud? Pourquoi est-ce que vous l'avez mis en jean? Quel est le rapport avec notre temps?
Vous savez, Rimbaud, je crois que j'ai dû commencer à tenter de faire des portraits quand j'avais peut-être 13 ans, quoi, vous voyez, je veux dire. Mais en fait, j'ai toujours le sentiment qu'on pouvait pas le faire. Je veux dire que j'avais trouvé ridicule quand j'étais allé à Charleville faire un Rimbaud en marbre, comme si c'était même une espèce d'aberration, quoi. C'est, vous voyez, je veux dire, il n'y a que lorsque j'ai compris une singularité de mon travail, c'était sa fragilité. C'était, si vous voulez, j'ai fait ce portrait de Rimbaud parce que je savais qu'il allait disparaître. Je veux dire que ce qu'il y avait de plus rimbaudien dans ce collage que j'ai fait d'Arthur Rimbaud, c'était que mon image annonçait sa mort, en quelque sorte. Vous voyez, j'allais coller de Charleville à Paris, puis pendant un an, chaque fois que je trouvais un lieu un peu poétique dans Paris, je le collais. Mais vous savez, il n'y a pas simplement un jean, hein, je veux dire, en fait, ce qui avait motivé tout ça était bien complexe. Hein, maintenant, difficile. Hein. Pour moi, à ce moment-là, Rimbaud, c'était Ferlinghetti, Kerouac,
La Beat Generation que vous connaissez bien. Et c'est vrai que vous en avez fait une figure symbole pour toute une génération, en fait.
C'est ça. Mais j'avais gardé, j'avais pas cherché une espèce de modernisation superficielle avec le jean. Pour ceux qui connaissent, ou alors je suggère de vous plonger dedans, regardez les dessins qu'a fait Verlaine ou qu'a fait Récamé. La silhouette est la même, j'ai gardé la même. Il y a quelque chose de très juste. J'aurais voulu parler de ces images que je fais, puisque nous étions sur Mahmoud Darwish. Il y a dans mes images une espèce de contradiction volontaire, et au fond, je souhaiterais qu'elles soient perçues comme des empreintes, en quelque sorte. Vous voyez, ces images ont une espèce de neutralité plastique. Je souhaite qu'elles aient un certain impact, une certaine force, mais en même temps, que du point de vue plastique, elles soient assez neutres. Un peu, ma référence, c'est le Suaire de Turin, quoi, vous voyez. Je veux dire, il y a cette idée que de l'empreinte. Parce que dans l'empreinte, il y a à la fois, il y a simultanément, c'est une image très dialectique, il y a l'idée à la fois d'une présence et d'une absence, c'est comme les pas dans le sable. Et pour Mahmoud Darwish, je voulais que mon image affirme ça. Je veux dire que sa légitimité d'être à travers la Palestine, d'être là, d'être chez lui. Je veux dire que, vous savez, il avait dit « je suis revenu et je ne suis pas revenu ». Il a incarné l'exil. Au fond, tous ces poètes que j'ai saisis, en quelque sorte, j'ai saisi parce que leur destin exprime quelque chose qui les dépasse, en quelque sorte. Vous voyez, je veux dire que il y a cette poétesse allemande qui s'appelle Eva Schrimatter. Elle dit les poètes font leur pays. Et c'est un peu le cas. Mahmoud Darwish incarne la Palestine, elle incarne l'exil. Quand je suis allé travailler à Birwe, j'ai essayé de coller une image à Birwe, le village où il est né. Le village a été annihilé complètement. Je veux dire qu'il n'y a plus aucune trace de la vie. Il n'y a plus aucune trace qu'il y a eu un village à cet endroit-là. Il y a une volonté de nier, en quelque sorte, pour certains encore aujourd'hui, de nier la Palestine, quoi.
Ernest, je voudrais que revenir un instant sur ce que vous disiez sur l'écriture de vos dessins. Parce que j'ai été dans votre atelier et je vois parfaitement, me semble-t-il, que les dessins qui sont longuement élaborés pour parvenir à une synthèse sont ensuite installés dans les villes. Et ce sont des dessins, comme vous le dites, qui ont un style, qui ont une perfection et une certaine neutralité dans cette perfection. Comme vous voulez que ça soit des suaires, comme des empreintes avec un réalisme et une échelle 1. Et quand on voit les esquisses, on se rend compte des esquisses qui sont absolument formidables, de enlevées, rapides, virtuoses, audacieuses dans leur construction. On se rend compte que d'un côté, ce que vous installez dans la ville est très retenu pour être naturellement là, et la façon dont vous les élaborez est très construite. Par exemple, je pense, par exemple, à Soweto, vous avez installé cette femme qui porte son enfant mort dans les bras, n'est-ce pas, et qui vient d'une photo de Sam Zima qui représentait Hector Peterson, le jeune homme qui était mort, lui, pendant les révoltes de 76. Et quand je vois les esquisses très, très rapides, très, très puissantes, comme ça vous faites, et que je vois cette image qui devient un symbole, une icône absolument parfaite, d'une solidité totale, mais en même temps avec une certaine distance, vous travaillez sur cette distance presque brechtienne.
Tout à fait, tout à fait. Vous savez, pour que mes images fonctionnent, il faut qu'il y ait... Je travaille cette contradiction que vous avez pointée. Il faut qu'il y ait assez d'effets réels pour qu'il y ait l'idée d'une présence. Hein. Et donc, vous l'avez dit, je travaille grandeur nature, je travaille beaucoup le dessin, souvent avec des modèles. Mais en même temps, je ne fais pas de trompe-l'œil. Je veux affirmer qu'il s'agit d'un signe, qu'il s'agit d'une image. Et donc, il y a cet équilibre, effet de réel, effet de distance, qui est l'essentiel de mon travail. Il faut que mes images apparaissent comme un signe. Au fond, il faut percevoir l'ensemble de mon travail comme... Je propose un lieu dans lequel je viens glisser un élément de fiction. Et cet élément de fiction doit densifier le lieu, lui donner une profondeur au visible. Vous voyez ? C'est-à-dire que l'objectif, c'est ça. Et donc, j'ai cet équilibre à donner. J'essaie effectivement, il y a un plus grand lyrisme, puisque vous avez vu dans mes études, parce qu'on sent la main, on sent le moment de la main. Et après, je retiens parce que je ne veux pas qu'il y ait de pathos. Vous voyez, je veux dire que je n'ai pas de sang, quoi.
Et pourtant, il n'y a pas de pathos, mais il y a une grande empathie. Et ce qui est assez frappant quand dans cette Madone de Soweto, dans cette Pietà de Soweto, c'est la façon dont elle porte en elle l'idée de la Madone. Elle vient d'une photo qui est une autre histoire, comme s'il y avait une superposition mémorielle. Et comment est-ce que ça a été reçu lorsque vous avez présenté cette femme qui porte dans les mains, dans les bras, son fils mort du sida et qui vient d'une photographie célèbre d'un homme qui tient dans ses bras son camarade mort pendant la révolte et tué par les tenants de l'apartheid à l'époque.
Écoutez, je crois que ça a été bien reçu. Oui, d'ailleurs, parce que d'abord, vous savez, des travaux comme cela, aller coller dans ce Soweto, on peut pas le faire si les gens n'y adhèrent pas, quoi. Vous voyez, mon image, elle est née de l'écoute. En fait, j'étais allé en Afrique du Sud avec l'intention, avec le désir de travailler sur le caractère multiculturel du pays. J'avais eu la chance de rencontrer Nelson Mandela et j'avais une passion pour l'Afrique du Sud. Mais sur place, les gens me disaient, ce que vous faites, travaillez avec nous sur le sida. Donc, ils m'ont amené dans ce quartier de Soweto où plus de 30% des hommes étaient plombés par la pandémie. Et puis, un des collaborateurs de Mandela m'avait dit, vous savez, nous avons vaincu l'apartheid, nous vaincrons le sida. Et c'était imposé peu à peu cette idée qu'il fallait superposer ces deux combats essentiels, vous voyez. Et en effet, j'ai fait comme du subliminal, quoi. J'ai fait cette image relative au sida, cette femme, parce que je me suis persuadé à l'écoute des gens malades et des gens qui travaillaient sur la pandémie, que tout reposerait sur le rôle des femmes, sur leur courage, et leur énergie, leur volonté, sur les femmes. Et donc, cette femme, elle est construite dans mon dessin comme une espèce de colonne. Vous voyez ça, c'est la mère, la sœur, l'infirmière, en quelque sorte. Vous voyez, et tout repose dessus. Quelquefois, on dit que mes dessins sont très, très réalistes, mais les mains sont deux fois trop grandes. Vous voyez, je veux dire, tout ça n'apparaît pas.
Oui, voilà. Mais Ernest, vos mains sont trop grandes. Quand je regarde les vierges romanes, par exemple, les mains sont immenses aussi. Le sens est le même.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, je m'en sens très, très proche. Hein. Vraiment. Vraiment très proche. Vraiment.
De toute façon, vous êtes un athée extrêmement proche du christianisme en tant qu'artiste, non?
Oui, bah écoutez, quand on est peintre et qu'on a la chance d'être né dans la sphère catholique, je veux dire vraiment catholique, ce dogme de l'incarnation, c'est un cadeau pour un peintre. Enfin, pour un peintre qui a les préoccupations que j'ai, quoi. Je veux dire, moi, mon premier voyage à 18 ans, c'est la cathédrale de Tolède.
Ah, c'est le Gréco.
Et le second, c'est à Florence. Je veux dire que j'oublie pas la découverte de l'Annonciation de Fra Angelico à San Marco. Quoi, vous voyez, je suis nourri de tout ça.
Vous êtes un autodidacte qui s'est nourri passionnément de l'art depuis que vous avez 14 ans. C'est extraordinaire. Et vous continuez aujourd'hui avec les poètes qui vous accompagnent. Je pense à cela. Et aussi avec les mystiques. Et alors ça, c'est assez fascinant parce que je trouve que vous avez fait un travail sur les mystiques qui correspond à cette tension que vous essayez d'organiser entre se déposséder du corps et jouir du corps à la fois, qui devient le simple médium entre l'amour presque physique du Christ et soi-même. Je vous propose d'écouter un texte de Sainte Agnès. Nous sommes au XIVe siècle.
Celui que j'aime est plus noble que toi. Le soleil et la lune admirent sa beauté. Ses richesses sont inépuisables. Il est assez puissant pour faire revivre les morts. Et son amour dépasse tout amour. Il a mis son anneau à mon doigt, m'a donné un collier de perles et m'a vêtu d'une robe tissée d'or. Il a posé un signe sur mon visage pour m'empêcher d'aimer un autre que lui. Et il a arrosé mes genoux de son sang. Déjà, je me suis donné à ses caresses. Déjà, son corps s'est mêlé à mon corps. Et il m'a fait voir un trésor incomparable qu'il m'a promis de me donner si je persévérais à l'aimer.
C'est curieux, Ernest Pignon-Ernest, cette œuvre que vous poursuivez pendant cette vie d'artiste et qui est tendue entre une intervention dans le monde avec la plus grande vivacité, le plus grand parti pris, la plus grande empathie pour les grandes causes d'aujourd'hui et en même temps ce regard sur l'art, l'histoire de l'art, l'histoire de la poésie. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ouais, c'est ce qu'il y a de pasolinien dans mon travail, je crois. Voilà. C'est d'interroger notre temps en faisant résonner les grands mythes fondateurs et les grandes voix du passé, quoi, de pas en être coupé. Je veux dire que une des choses qui m'inquiète dans la société aujourd'hui, c'est la musique, quoi. Vous voyez, je veux dire là j'ai un travail en cours sur Haïti, sur un poète contemporain haïtien aussi. Et il dit, c'est une grande belle chose pour un peuple que de rester fidèle à ses légendes. Et là, en l'occurrence, il parle du vaudou. Voilà. Et moi, j'ai ce souci toujours d'une espèce de fidélité à ce qui fonde ma culture, quoi, en quelque sorte. Vous voyez tout.
Alors, dans votre culture, et donc il y a les mystiques que l'on vient, d'entendre, donc Sainte Agnès, vous adorez évidemment la Sainte Thérèse du Bernin, on pourrait aussi parler de Sainte Catherine de Sienne, de toutes ces mystiques que vous dessinez et que vous installez en ce moment.
Je suis parti de leurs textes. En fait, tout ça est venu de mon travail napolitain, hein. D'abord d'Ignace de Loyola, des exercices spirituels, parce que dans il dit que pour méditer, et il faut avoir des préludes qui nécessitent d'imaginer des espaces. Quoi, vous voyez, je veux dire, donc j'ai commencé avec ça, de là Saint-Jean de la Croix, et puis en découvrant Thérèse d'Avila, je me suis plongé dans les textes de toutes les autres mystiques. Le travail auquel vous faites allusion ne traite que de mystiques qui ont écrit. Et je suis parti de ce qu'elles ont dit d'elles-mêmes. Tous mes dessins sont nés de ce qu'elles ont dit d'elles-mêmes, de ces contradictions qui les traversent. C'est-à-dire que, à la fois, s'affirmer comme les épouses du Christ, comme le texte que vous avez lu de Sainte Agnès, comme ça, où le corps a sa part, comme dit Thérèse dans le texte qui a servi à la sculpture du Bernin, le corps y a sa part et même beaucoup.
Bien
et
sûr.
En même temps, ce désir de se désincarner, ce refus de la chair, le fait qu'elle parte en lévitation, quoi, vous voyez. Et pour un moi, en tant que peintre et que dessinateur, ce pari, cette contradiction était très très riche, très intéressante, quoi, vraiment.
Alors, Ernest Pignon-Ernest, il y a, donc, on en parlait tout à l'heure, quand on a parlé de l'apartheid tout à l'heure de Soweto, on aurait pu parler des œuvres initiales, celles de Nice, par exemple. Mais il y a aussi autre chose dans votre œuvre qu'on a esquissé avec Mahmoud Darwish et évidemment Rimbaud. Ce sont les poètes qui ont une présence gigantesque. Jean Genet, Antonin Artaud, Robert Desnos, Ségalène, Neruda, tout ça, ce sont des poètes qui vous accompagnent parfois dans des combats. Je pense à Neruda, que vous avez représenté à Santiago en pleine dictature, mais je pense aussi à Antonin Artaud ou à Mayakovsky, que vous avez utilisé, dont vous avez fait l'image pour protester contre un moment un petit peu trop réactionnaire du Festival d'Avignon en 72, je crois, quand Claude Petit montrait les ballets petits, montrait Mayakovsky d'une façon qui ne vous satisfaisait pas. Et alors, je voudrais qu'on écoute un instant un passage d'Antonin Artaud qui rassemble deux personnes que vous aimez, évidemment Antonin Artaud lui-même et Desnos, et on va y revenir.
Mon cher ami, je sors bouleversé d'une lecture des derniers poèmes de Desnos. Ces poèmes d'amour sont ceux que j'ai entendus de plus entièrement émouvants, de plus décisifs en ce genre, depuis des années et des années. Pas une âme qui ne se sente touchée jusque dans ses cordes les plus profondes. Pas un esprit qui ne se sente ému et exalté et ne se sente confronté avec lui-même. Ce sentiment d'un amour impossible creuse le monde dans ses fondements et le force à sortir de lui-même. Et on dirait qu'il lui donne la vie. Et il n'est pas jusqu'à un besoin d'abstraction qui ne se sente satisfait par ses poèmes, ou la vie de tous les jours, ou n'importe quel détail de la vie journalière prend de l'espace et une solennité inconnue.
Lettre d'Antonin Artaud à Jean Paulhan en 1926 à propos de Robert Desnos. Je suis avec Ernest Pignon-Ernest. Ernest, vous avez dessiné et Artaud et Desnos et d'autres, et vous aimez particulièrement Desnos. Je crois que vous êtes même allé à l'endroit où il est mort.
Oui, je suis allé à Thérésine, en effet. En général, je ne demande pas d'autorisation. Là, je ne l'ai pas encore fait, mais j'avais l'autorisation de coller dans le camp où il est mort. Vous savez, le pauvre, il a...
Racontez-nous.
Le camp a été libéré quand il est mort, malheureusement. Il a attrapé le typhus dans les derniers jours. Et bien que le camp soit libéré, il n'a pas pu rentrer, quoi. Je veux dire que c'est une très, très belle histoire. C'est un étudiant tchèque qui avait lu Breton, qui connaissait donc le nom de Robert Desnos, qui avait du Nadja, et qui a vu le nom de Desnos sur la baraque où arrivaient les prisonniers de Auschwitz. Et Desnos était en train de mourir. C'est comme ça qu'on a su qu'il était mort là-bas. Et cet étudiant a fait en sorte qu'il soit brûlé tout seul, et il a ramené ses cendres en France, et les lunettes de Death Note. Vous voyez, quand j'essayais tout à l'heure de vous dire combien je travaillais sur le choix des lieux, et qu'au fond, c'était les lieux eux-mêmes qui étaient mes œuvres, et que les dessins étaient là, en quelque sorte, pour leur donner une densité, une profondeur. L'image que j'ai collée de Robert Death Note dans Paris, je l'ai collée à l'endroit, à 2 mètres près, 3 mètres près, où Gérard de Nerval s'est pendu. Vous voyez, je veux dire que, à la fois, parce que ce lieu conjuguait une architecture métallique très proche de celle d'Eiffel. Robert Dazmios dit dans plusieurs textes « Je suis né sous le signe de la Tour Eiffel ». Et en même temps, ce lien avec Gérard de Nerval, auquel fait allusion, j'ai pas découvert cette relation. Je suis en train de travailler aussi un ouvrage sur l'Aurélia de Gérard de Nerval. Vous savez, il y a ce texte magnifique d'Aragon qui s'adresse à Death Note. Il dit « Il y avait dans ta voix comme un chant de Nerval quand tu parlais du sang, jeune homme singulier. » Voilà, j'ai associé les deux. Voilà.
Et vous avez installé... De Death Note, vous avez gardé plutôt la liberté ou l'amour, non? Et un personnage formidable de l'âme.
Oui, oui, c'est Louise Lame qui se dénude le long des arcades de la rue de Rivoli. Oui, j'ai extrapolé un peu le texte de Death Note.
Oui, elle abandonne sous les arcades de la rue sa culotte, un manteau, une écharpe. Et ensuite, elle a une étreinte que vous avez inversée et qui est une surprise magnifique juste à côté des Tuileries, comme ça, c'est très, très impressionnant.
Il dit, moi aussi j'ai plongé dans les ténèbres, moi aussi j'ai plongé dans les ténèbres de tes cuisses. Voilà.
Donc, l'amour.
Des baisers de la chair.
Donc les poètes, l'amour, l'engagement. Vous dites souvent que vous n'êtes pas un artiste engagé, mais que vous êtes un artiste concerné. Et vous considérez vos œuvres non pas comme des manifestes exactement politiques, mais plutôt comme des rituels autour de vos engagements. Est-ce que je me trompe?
Oui, je préférerais ça. Maquette, ça serait plutôt de cet ordre. En tout cas, ouais, c'est toujours... Vous savez... Mes œuvres sont jamais, je n'ai pas d'œuvre qui soit terminée. Comme vous avez, puisque vous avez vu à mon atelier, toutes les recherches, les tâtonnements, les inquiétudes, les doutes qui habitent mon travail. Et même lorsque j'ai passé 6 mois à faire le portrait de Pasolini portant son corps, comme vous l'avez vu, en travaillant le moindre détail. Et même une fois que j'ai fini ce dessin, je sais que la proposition n'est pas terminée parce que je vais encore travailler ces qualités plastiques en le collant et son sens. Vous voyez, à chaque endroit où je les colle, l'image prend un sens différent.
Merci Ernest Pignon. Ernest, je comprends.
Dès qu'elle est collée, elle va disparaître. Voilà.
Merci. J'adore que vous continuiez à travailler. Merci beaucoup. À bientôt.
À bientôt.
C'était l'art et la matière par Jean Deloisy avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu l'artiste Ernest Pignon. Ernest, à l'occasion de son exposition à l'atelier Grognard à Rueil-Malmaison. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. Une émission conçue en collaboration avec Serm Boutata, recherche des textes Maureen Roy, lecture des textes Emmanuel Lemire, prise de son Baptiste Lénart et réalisation évidemment Thomas Jost. La semaine prochaine, nous visiterons l'exposition Peintre-femme au XVIIIe siècle, l'histoire d'un combat. Mais dans quelques instants, Jukebox par l'excellent Amaury Chardot. Bon après-midi sur France Culture.